Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, là où ça se passe, là où ça se casse, parfois un peu trop.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Clément Nouguier, assistée de June Loper, avec Roman Mahé à la technique aujourd'hui, et un grand merci à toutes les équipes soignantes.
Au sommaire cette semaine, le maintien de l'ordre à la française. À l'heure où le débat sur les violences policières refait surface, retour à travers nos reportages sur l'évolution de cette doctrine dans les manifestations.
Quand il y a une bavure policière, on dit toute la police, c'est des gens violents. Quand il y a un manifestant qui dérape, on dit tous les manifestants, c'est des gens violents. Et au final, on ne parle jamais du fond. Il n'y a pas d'un côté les gentils manifestants et les méchants policiers, ou les méchants policiers et les gentils manifestants.
Je n'étais pas une machine à la volonté des autres. Tue et je tue. C'est pas comme ça.
Ce n'est pas un Robocop.
Non, voilà, je ne suis pas Robocop. C'est Robocop. Robocop.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit court depuis la semaine passée, que beaucoup se sentent enfin obligés d'admettre qu'il faudra bien se poser la question des méthodes et des moyens du maintien de l'ordre à la française, partant de mobilisation sociale. Alors que certains syndicats policiers réfutent encore le concept même de violence policière, l'obstination de tous ceux qui, comme David Dufresne, recensent les cas filmés d'abus manifestes, a réussi à imposer un débat sur l'usage de la force vis-à-vis des gilets jaunes. Et il se trouve qu'au cours des 5 saisons de reportage, Comme un bruit qui court a eu pas mal d'occasions d'aborder la question du maintien de l'ordre quand ça chauffe, et de ses conséquences dans les quartiers, dans les ZAD, pendant l'état d'urgence post-attentat, et plus généralement à l'occasion des nombreux mouvements sociaux que notre pays a traversé ces dernières années. Une occasion de mettre en perspective ce qui ressemble de plus en plus à une généralisation, par les dirigeants politiques successifs, de la réponse policière aux questions sociales. Et de se poser la question, comment en est-on arrivé là, et comment faire autrement ?
Mais commençons d'abord par les outils du maintien de l'ordre et par le plus célèbre d'entre eux, le flashball. En 2016, nous étions allés à Saint-Étienne, dans la petite usine du fabricant d'armes Vernet Caron, où il a été conçu.
Oui, mais le flashball, c'est déjà de l'histoire ancienne. Maintenant, c'est le lanceur de balles de défense, LBD-40, qui fait fureur et qui a déjà blessé grièvement au moins 40 personnes depuis le 17 novembre. Par contre, la grenade de désencerclement Gli F4, qui a tué Rémi Fraisse, elle est toujours utilisée, il y a du stock, faut pas gâcher.
Comme un bruit qui court, retour sur l'évolution du maintien de l'ordre à la française, c'est jusque 17h sur France Inter.
Je ne connais aucun policier, aucun gendarme, aucun pompier, aucun journaliste qui est attaqué volontairement des manifestants, quels qu'ils soient.
David Dufresne, bonjour. Je me permets juste deux choses d'une. Soit Monsieur Castaner est mal informé, soit il ment. Moi, je recense une 20aine de personnes qui ont perdu un œil, 4 personnes qui ont perdu une main, des traumatismes à vie.
Il y a bien un contrôle qui est exercé.
Laurent Nunez.
La riposte, elle s'effectue de manière proportionnée.
Secrétaire d'État.
Si la police n'est pas violente, les manifestants le sont moins. C'est ça votre expérience ?
Yes, I think so.
Vous savez, on fait pas du maintien d'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire. Hein.
Un manifestant s'écroule au sol après un tir de lanceur de balles de défense par les forces de l'ordre.
Il n'y a pas eu, à première vue en tout cas, de bavure, de mort, de blessés graves.
6 personnes font l'objet d'infirmités permanentes, 4 à l'œil, 2 ont une main arrachée.
Pas de blessés graves, pas de blessés graves, pas de blessés graves,
Mais tirer
Éric Morvan
dans une manifestation avec un lanceur de balles de défense dans une foule extrêmement mouvante.
Directeur général de la police nationale.
Peut parfois occasionner des blessures.
On a tous vu cette image samedi du commandant de police à Toulon qui est en train de boxer à main nue un manifestant gilet jaune qui est debout contre un mur.
Je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant.
Le flashball, c'est la première invention de ce qu'on va appeler à l'époque les armes à létalité réduite, ce qui est un terme assez curieux, qui est très orwellien, c'est-à-dire ça tue pas vraiment.
Comme un bruit qui court !
Qui manque-t-il ?
Charlotte Perry !
Antoine Chow !
Hashtag comme un bruit !
On est sur le boulevard Thiers, à Saint-Étienne, et on arrive devant le siège de l'entreprise Vernet Caron, où sont fabriqués les flashballs. Bonjour.
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 Je suis l'assistante de Guillaume Vernet Caron.
D'accord.
Je vous emmène.
Merci.
Guillaume Vernet-Caro va vous recevoir dans un instant. Hein.
Je vous laisse patienter.
Merci, moi je vais regarder, il y a...
Ah oui, bah oui, là il y a de quoi faire. Déjà.
Des fusils partout, partout, partout. Derrière des portes vitrées, fermées à clé. Il y en a des centaines. Bonjour.
Guillaume Vernet-Caron, directeur général de la société. Ah, c'est typique de la PME familiale française. Ouais. Bah, avec diverses générations qui cohabitent aussi dans l'entreprise. Parce que ce qui compte, quelque part, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est aussi de transmettre quelque chose derrière aux générations suivantes.
Ça fait combien de générations que
c'est... Alors aujourd'hui, si on démarre depuis 1820, ça fait 6. Et après, c'est vrai qu'en termes de généalogie, sur Saint-Étienne, on est remonté jusqu'à 1650, où on était déjà faiseur de fusils ou faiseur de canons. C'était Armeville, Saint-Étienne.
Armeville ?
Ben, c'était comme ça qu'elle était surnommée, ouais.
Et maintenant, c'est Flashball City.
On a su saisir l'opportunité qui nous avait été présentée de mettre un pied sur le marché, entre guillemets, de la sécurité avec le Flashball, clairement, oui.
Parce que le flashball, il a été inventé ici, en fait.
Alors, le flashball, c'est un concept, nous, qu'on nous a présenté, hein, d'accord, hein. C'était un expert auprès des tribunaux qui est venu nous voir à l'époque parce qu'il en avait effectivement un petit peu marre de voir des bavures avec les armes de service. Et de là, on l'a aidé, on a fait notre métier, hein, de fabricant d'armes. Et donc, on a conçu, redéveloppé un lanceur à létalité réduite, fin des années 90. Il se place entre l'arme de poing, ok, et la matraque. Et dans cette catégorie de moyens de force intermédiaires, aujourd'hui, on a plusieurs produits. On a le produit Flashball, qui est une marque propre qui appartient à Vernet-Caron, qui est un produit bien distinct. On a le LBD 40 aujourd'hui, on a les lance-grenades Cougar, Chouka, etc. Et on a le pistolet à impulsion électrique, le fameux Taser. Tout ça destiné à l'équipement des forces de l'ordre.
Est-ce que, par exemple, les commerçants, est-ce qu'ils peuvent acheter des Flashball aussi ou...
Les commerçants, comme les particuliers, ils ont accès à un flashball qu'on appelle flashball compact, que vous et moi pouvons acheter en armurerie et que nous pouvons détenir à la maison pour la défense personnelle, plutôt que d'utiliser son fusil de chasse qui causerait des dégâts, pour le coup, irréversibles.
Avec le flashball aussi, il peut y avoir des dégâts irréversibles.
Oui, ça dépend. Ça dépend s'il est bien utilisé ou pas. C'est toujours pareil. On peut en parler, ouais, effectivement. Mm.
Visiter comme ça je les vois puisque j'en ai jamais vu.
Vous connaissez pas, on peut faire un petit tour.
Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on vient. Bon. En plein dans le mille, je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment que ça se fait? Bon, en plein dans le mille. Oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Bon, en plein dans le mille. Y a plus qu'à tirer un chèque non barré pour cette espèce d'imbécile. La chasse est un sport difficile.
Là, tous les portraits, c'est la famille. Jean Vernet-Caron, Claude Vernet-Caron.
Le créateur de la société.
Jean Vernet-Caron, Claude. Ah, c'est tout. Jean Vernet-Caron, Claude Vernet-Caron.
C'est Claude Jean.
Vous êtes la seule exception ?
Oui, c'est ça, mais moi, je suis dans une branche différente, donc je ne suis pas obligation de porter le prénom. Là, on rentre dans l'usine.
C'est un grand atelier avec encore les...
Là, c'est le grand atelier historique stéphanois avec des grandes verrières de façon à profiter au maximum de la lumière du jour.
Là, vous tirez une petite corde et il y a...
Ouais.
Ça s'ouvre. Et on rentre dans une autre partie.
Une autre partie d'activité et puis on va aller au local Flashball.
Parlons ensemble de l'utilisation des flashballs. Bonjour Nicolas Comte.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Pourquoi est-ce qu'on parle flashball avec vous ? Parce qu'hier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a rendu un rapport très sévère sur l'utilisation qui en est faite. Il réclame l'interdiction de cette arme, selon lui, arme imprécise qui provoque de graves lésions. Est-ce que c'est une arme inadaptée, le flashball ?
Il y a deux problèmes. Il y a un problème de manque d'entraînement. Mais ce qui nous pose souci, nous, le flashball, dans beaucoup de situations de police, c'est une arme qui nous est parfaitement indispensable.
Pour vous, hors de question de vous placer, de vous passer du flashball.
Ah, pour nous, hors de question de nous placer du flashball, parce que le problème, c'est que le défenseur des droits ne nous dit pas comment on fait si jamais on se prive du flashball. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos poings, on utilise un automatique 9 mm. Je pense pas que la situation soit améliorée avec ça.
Service flashball, Bernet Caron Sécurité. Bonjour. C'est un petit atelier, en fait, où il y a 4 personnes qui travaillent.
C'est ça. Les premières commandes de l'État étaient sous Jospin, puis après Sarko effectivement a voulu faire une dotation plus importante au niveau de la police nationale pour les brigades anticriminalité.
Les BAC,
donc vraiment les gens qui sont amenés à patrouiller dans des quartiers difficiles. L'idée c'était de pouvoir avoir une arme à létalité réduite pour pouvoir se désencercler rapidement. Voilà.
C'est pas fait pour les manifs à la base.
C'est pas fait pour les foules. Il a jamais été conçu pour tirer sur des mecs à 50 mètres. Flashball à l'époque il a été conçu pour mettre hors d'état de nuire un individu agressif à une certaine distance. Et la distance demandée à l'époque, c'était 7-15. Entre 7 et 15 mètres. Hein. Et un coup de flashball tiré à des distances qui sont hors doctrine, bah forcément, oui, effectivement, ça peut devenir plus dangereux. Quand un lance-grenade il n'est pas utilisé en cloche, qu'on fait un tir direct dans la tête d'un mec, bah forcément, ça fait des dégâts, quoi. Et là, ce serait le lanceur de 40 de Vernet Caron.
Le lanceur de 40, c'est un peu le cousin du flashball, quoi. C'est...
Bah, en fait, gros, il y a des éléments communs, mais il n'a rien à voir. On ne demande pas du tout la même chose.
C'est quoi, là ?
Sur le lanceur de 40, on demande de tirer plus loin et de plus précis. Le projectile de flashball, ça reste une balle. La balle, peu importe comment elle arrive, ça restera une balle. D'un objet sphérique. Munition de 40, on est sur une demi-sphère. Donc, si jamais la munition arrivait de travers ou en biais ou qu'elle se retournait complètement, avec la vitesse, c'est un gros morceau de plastique dur que vous prenez. Voilà, il suffit que cette partie se retourne et que vous la prenez dans l'œil, ça vous découpe bien comme il faut l'œil. D'où, moi je considère que le 40 est beaucoup plus dangereux que le flashball.
Et c'est ce dont va être équipée la police et déjà équipée la police.
C'est le choix qui a été fait, oui.
Et vous en avez vendu combien des flashballs ?
Le parc mondial du flashball. Moi, j'ai tendance à dire une centaine de milliers.
100 000 ?
Ouais.
Mmh. Ça marche bien quand même.
Bah, c'est une réussite française. Hein ? Bah ouais.
Et du coup, les principaux marchés maintenant, c'est...
C'est l'Asie du Sud-Est. Bah, ils ont fait un grand pas hein, quand même dans ces pays-là, parce qu'avant, ils faisaient la gestion de foule au M16 et ça faisait beaucoup de morts.
C'est une sorte d'avancée démocratique, quoi.
Oui, clairement. Même si ça peut prêter à sourire, oui. Et c'est dommage d'ailleurs parce que la France a un vrai savoir-faire en termes de maintien de l'ordre, de gestion de foule, et c'est vrai qu'il est hélas rarement mis en avant. Et puis après, systématiquement, mais les politiques commencent à le dire, donc je suis content, mais le risque zéro n'existe pas, quoi. Que ce soit le flashball, que ce soit le LBD 40 ou le lance-grenade, jamais à l'abri effectivement d'une bavure.
D'un côté, des policiers venus soutenir leurs collègues, de l'autre, des militants anti-flashball. Le tribunal vient de reconnaître le gardien de la paix coupable. 1 an de prison avec sursis pour violence volontaire sur Geoffrey, blessé grièvement par un tir de flashball.
Quand ça fait bang, bing.
Insuffisant pour la famille.
Oh là là, oh là là.
Voici Nassur, 9 ans. Victime d'un tir de flashball vendredi.
Quand ça fait pan, 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 ça me met dans tous mes états. Quand ça fait ping,
sping. D'un côté les CRS.
Oh là là, oh là là.
De l'autre une centaine d'ultras du club de foot de Bastia.
Quand ça fait bling, bling. Oh, j'adore ça.
Et c'est possible de voir comment ça marche, les flashballs ?
Ah bah comment ça marche, fastoche, hein ? Venez, on va faire du bruit.
Accès au stand de tir.
Toutes les armes qu'on fabrique sont toutes testées. Ce qu'on va faire, on va tester live. Hein.
C'est une cible qui représente un monsieur... Il y a une arme à la main.
Donc attention les oreilles. Point visé, point touché. Hein, hein, en plein dans le thorax. Hein.
Ouais, ouais, thorax. Ouais.
Bruno, il s'entraîne.
Depuis 2011, je suis responsable du service flashball au niveau montage.
Alors vous, vous en pensez quoi de toutes ces polémiques autour de cette arme du flashball?
Alors l'avis du salarié de chez Vanier Caron, ben voilà, hein, on essaie de faire des efforts et c'est vrai qu'ils ne sont pas reconnus. Enfin, les gens ne viennent pas vers nous pour voir les efforts qu'on a fait au niveau de l'amélioration du produit. Après, le citoyen que je suis, je dis que ben voilà, on renforce quand même la police et la gendarmerie avec des armes de guerre. Donc ben voilà, la table est mise. Hein.
C'est le genre d'arme qui n'est pas fait pour rapprocher police et population, quoi. C'est fait pour dire on est en guerre contre la population. Quoi.
Ouais, enfin c'est oui. Bah malheureusement, nos sociétés ont un peu évolué. Il y a plus de violence.
Les fabricants de flashball ne croyaient pas si bien dire. La montée en puissance des armes à létalité réduite et leur usage de plus en plus massif contre les mouvements sociaux n'a pas empêché les zadistes de Notre-Dame-des-Landes d'essaimer contre des grands projets inutiles et susciter des émules. Jusqu'au drame de la mort de Rémi Fraisse en 2014 à la ZAD de Sivens.
Le projet de barrage de Sivens a bien été abandonné, oui, après une longue lutte de résistance. Mais Rémi Fraisse en a payé de sa vie. Nous y étions en septembre et octobre 2014.
Et ça a été coupé quand, tout ça, là, autour? D'accord. Donc vous avez protégé tout ce bosquet, c'est ça, toute cette partie?
Comme on est là, il y a certains uns qui ne peuvent pas couper, quoi.
C'est une course contre la montre, hein, c'est ça, qui est en train de se jouer, là?
Nous, pour éviter d'être... qui viennent nous chercher, et on milite pour défendre la forêt, on demande juste que tout ça soit remis en cause. On demande juste que les gens discutent. On attend toujours.
Ah, ils avancent là. Voilà, oui, voilà, voilà. Ça sent la charge. Attends, moi ça y va. Il y a deux caddies avec un sommier pour pouvoir s'approcher. Il y a du lacrymo de toutes parts. Là.
Des actes qui peuvent donc frapper les forces de l'ordre, alors même que ces forces de l'ordre sont au service de la République.
La mort de Rémi Fraisse a été occasionnée par l'utilisation de grenades,
ministre de l'Intérieur,
dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre.
Grenades, selon toute vraisemblance, lancées par les forces de l'ordre.
Qu'un jeune puisse mourir pour défendre ses idées ou pour contester un projet, moi je ne peux pas l'admettre.
Il n'y a pas d'abandon du projet.
Ségolène Royal.
Aujourd'hui, il y a une suspension par la force des choses, des travaux.
Ministre de l'écologie.
Qui a été décidé par le président du conseil général.
5 novembre 2014.
Je crois que chacun doit avoir la force de se hisser au-dessus de ses intérêts personnels pour construire le bien commun et l'intérêt général.
Alors, c'est la ferme de Pierre et Nadine Lacoste et le père de Pierre qui est Lucien. Ah, elles mangent de bon appétit, hein?
Oui, oh oui.
Vos vaches, hein, Lucien?
Elles ont bon appétit, ça c'est sûr, oui.
Vous, Lucien, ça fait plus de 30 ans hein, que vous vous battez contre ce barrage, enfin que vous essayez de protéger cette vallée du Tescou, mais on n'est jamais arrivé à un degré de violence pareil.
Non. C'est juste maintenant, là, où on est arrivé à un degré de violence. D'ailleurs, bon, il est bien dit que le préfet avait demandé aux gardes mobiles de mettre le paquet, voilà, parce qu'on avait envie de faire partir les zadistes. Je suis très sceptique sur ce point-là, parce que plus on leur dit de partir, plus ils restent. S'ils ont envie de rester, on ne les fera pas partir. Moi, je les remercie d'avoir été là dans les moments où on avait besoin, c'est sûr.
La lutte continue, Lucien, aujourd'hui?
Ah oui, la lutte continue, ça, il faut... Ne serait-ce que pour Rémi Fraisse, hein, il faut montrer qu'on continue. Voilà.
On demande l'abandon définitif des armes offensives de la police et de la gendarmerie. Donc toutes ces armes dites non létales, ils nous ont bien prouvé dernièrement qu'elles ne sont pas que non létales, quoi, qu'elles peuvent aussi permettre de mutiler, blesser, voire tuer des copains. Et la reconnaissance de la responsabilité de Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, dans le meurtre de Rémi Fraisse.
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Comme un bruit qui court depuis la ZAD du testé.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
Où vont les subventions ? Qui prend les décisions ? Qui fait les constructions ? Sans manipulation ? Où est la concertation ? Et la participation ? Pour les attributions ? Sans manipulation ? Et la bétonisation ? Et pour les plantations, et pour l'irrigation, sans manipulation, pour la démocratie, c'est quoi l'écologie?
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
Ben, on enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les préliminaires?
Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est adressé solennellement aux Français. Je vous adjure de renoncer à toute action de caractère irréfléchi qui ne pourrait que précipiter le pays dans le chaos et le conduire à sa ruine. Français, Françaises, ressaisissez-vous.
Ça, on vous l'aura dit tout à l'heure. 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 Ça, on vous l'aura dit tout à l'heure.
T'as raison, ça peut pas durer. Faut arrêter tout ce bordel, hein, passez tout.
Ça va être fini. Hein.
Ah oui, c'est vrai que tout a été dévasté. Enfin, rasé. Il y a eu le passage de la broyeuse, alors il y a des copeaux de bois partout. Le petit Tescou, là, qui est tout petit. On a peine à croire que ce petit Tescou, il va remplir tout cet espace de 40 hectares de retenue d'eau. Et il y a un cercueil en carton qui a été posé là. Rémi 1993-2014, ZAD du Testet, avec des fleurs posées dessus, des fleurs, des bougies et des petits mots qui ont été accrochés à un grillage pour protéger justement l'endroit où Rémi est tombé. Et on voit des traces, on voit les traces de sang là sur ce bout de terre jaune, damé comme une dalle. Donc ici, il y a toute la terre végétale qui a été enlevée. C'est une terre glaise jaune très collante qui est à nu, sur laquelle est tombé Rémi. Et il y a plein de mots. Oui, Rémi est un camarade. Et si c'était votre fils? Monsieur Carsenac, monsieur le prophète, vous avez du sang sur les mains. Ça ne vous fait rien. Il est encore temps de tout arrêter. Une colombe s'envole, mais le combat perdurera. Et à côté du cercueil, il y a toute une série de bombes, lacrymogènes, grenades, qui ont été lancées par les forces de l'ordre. Honte à cette violence faite aux jeunes opposants au barrage de Sivens. Voilà, c'est ce qui a été inscrit sur cette bombe.
Bonjour, je m'appelle Serge Paye, je suis poète, j'habite Toulouse. Pour toi, Rémi, j'ai porté sur le site, là où se tenaient les gendarmes, qui ont lancé la grenade qui t'a tué, un aquarium avec un petit poisson rouge. Maintenant, ce poisson rouge fait des va-et-vient dans son bocal, comme un drapeau. On lui a mis un miroir pour lui laisser croire qu'il n'était pas seul dans sa cage de verre. Mais soudain, l'eau se met à saigner, car le poisson rouge, en regardant le miroir, l'a coupé comme un rasoir. L'eau est devenue toute rouge et nage en se prenant maintenant pour un poisson. Ensemble, le poisson et l'eau décident de casser le bocal et de recueillir l'encre rouge qui permet d'écrire ce poème, justement. L'eau est joyeuse et fait grossir tout ce qui se trouve parmi les verres brisés du bocal, comme un œil qui regarde tout. Rémi, tu es encore avec nous.
On n'a toujours pas trouvé qui c'était celui qui avait tué Rémi.
Et depuis la première diffusion de ce reportage, les choses ont bougé, mais pas forcément dans le meilleur sens, Antoine.
Si, si, le gendarme impliqué dans la mort de Rémi Fraisse a bien été identifié, mais il ne sera pas jugé au pénal. En tout cas, c'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel avant-hier, le 17 janvier, estimant que cette affaire ne relevait pas de la justice ordinaire, mais de la justice militaire qui a délivré un non-lieu en janvier 2018. La famille de Rémi Fraisse va continuer le combat en cassation.
Et si Notre-Dame-des-Landes et Sivens ont été abandonnés, ce que l'on peut retenir de ce reportage de 2014, c'est que la montée en puissance des forces de maintien de l'ordre commence à avoir mauvaise presse. Des collectifs comme Désarmons-les se mobilisent pour désarmer la police et dénoncer le recours à la force pour décourager les manifestants et affaiblir la contestation sociale. Retour à Saint-Étienne en novembre 2016 à l'occasion du carnaval du Flashball.
Tour tous, on vous défonce, à coup de flashball, sinon...
Là, tout le monde était devant le musée de l'industrie, c'est ça?
De l'art et de l'industrie, ouais, où il y a une expo sur l'industrie de l'armement à Saint-Étienne.
Et là, du coup, alors là, il y a une espèce d'énorme flashball en carton?
Tout à fait, un énorme flashball en carton. Le flashbang. Pas mal de gens sont venus déguisés avec des masques, des confettis et des paillettes.
Comment ?
Je m'appelle Yvan.
Et Pierre. Tous les deux faites partie du collectif du 8 juillet,
ouais,
c'est ça ?
Je fais partie du collectif 8 juillet, qui s'est constitué après que un ami à nous, Joachim Gatti, se fait bornier en 2009, à Montreuil.
Par un tir de flashball.
Par un tir de flashball, ouais.
Et qu'il s'agit aussi un peu de rendre visible que font ces armes, de montrer aux gens combien il y a de mutilés et de blessés en France. De rappeler que, par exemple, sur la quarantaine de mutilations qu'il y a eu depuis 1995, il y a eu deux ou trois condamnations qui étaient très minces des policiers et quasiment toutes les affaires sont même pas traitées, elles sont classées tout de suite en non-lieu et refusées devant les tribunaux. Les armes à létalité réduite, ce qu'elles changent, c'est quand même le droit à la police de tirer dans le tas. C'est la stratégie du maintien de l'ordre qui a beaucoup changé. On le voit très bien ces derniers mois avec les grenades de désencerclement et les tirs au flashball. À chaque fois, c'est tirer sur tout le monde, en mutiler quelques-uns, et ça fonctionne vraiment pour faire peur à tout le monde. Je veux dire, il y a 10 ans, quand on venait en manifestation, on craignait pas d'être éborgné. Et maintenant, je pense que tous les gens qui ont participé à une manifestation contre la loi travail ont quasiment ça en tête aussi. Qu'on risque de perdre un œil, de tomber dans le coma, d'être blessé. Sur toutes les blessés sur la loi travail, aucun policier n'a été condamné. Par contre, les condamnations sur chaque manifestant, sur chaque personne arrêtée, elles sont décuplées.
Et évidemment,
nous, c'est face à ça qu'on fait face. Et on y fait face en essayant aussi de montrer qu'en fait, on n'a pas du tout affaire à des cas singuliers de bavure et d'un policier qui deviendrait fou quelque part en France. Mais à une opération de maintien de l'ordre. En ce moment, on a affaire à un surarmement policier. Et on voit bien que c'est eux qui décident du niveau de violence. On n'a pas le droit de les laisser installer un rapport de force où ils mutilent constamment une personne pour faire peur à tout le monde et pour imposer leur ordre.
Le plan pour la sécurité publique,
Bernard Cazeneuve,
que j'ai adressé à tous les policiers le 21 octobre,
ministre de l'Intérieur,
va permettre 3 avancées majeures. La première concerne la légitime défense. Pour protéger au maximum les forces de l'ordre,
le 14 octobre 2010, alors qu'il manifeste avec des lycéens à Montreuil, Geoffrey, 16 ans, est grièvement blessé à l'œil par un tir de flashball. 4 ans qu'il attend cette confrontation avec le policier qui l'a gravement mutilé. Aujourd'hui, le jeune homme est venu réclamer justice.
Débuteront ainsi dès le 1er janvier 2017 la livraison de 8000 casques et visières par balles, de 440 pistolets mitrailleurs HKG-36 et de 5500 armes nouvelles modernes qui remplaceront les anciens pistolets mitrailleurs. De même, le remplacement progressif des flashballs par des lanceurs de balles de défense plus récents, qui a déjà commencé, va se poursuivre. Toutes ces mesures, elles sont destinées à protéger les représentants des forces de l'ordre et à imposer le respect qui leur est dû. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
Je
suis Aline Nayer de l'association ACAT, donc auteur du rapport sur les violences policières. On s'est aperçu en s'intéressant à ce sujet au départ qu'il y a très très peu d'informations de la part des autorités. On ne connaît pas le nombre de personnes blessées ou décédées chaque année dans les opérations de police ou de gendarmerie. On ne sait pas combien d'armes sont utilisées chaque année. On ne sait rien en fait. On connaît le nombre de policiers ou de gendarmes qui sont blessés chaque année, qui sont décédés. Par contre, le nombre de personnes qui sont blessées ou décédées dans des opérations de police ou de gendarmerie, ce chiffre n'existe pas. Enfin, il existe certainement, mais il n'est pas rendu public, quoi. Donc la CAT a souhaité réaliser un état des lieux. Et donc c'est comme ça qu'est partie l'idée de cette enquête qui a duré 18 mois. 89 cas de violences alléguées en 10 ans, entre 2005 et 2015. La CAT a recensé à ce jour au minimum 40 personnes victimes de flashball, pour la plupart éborgnées, ou certains des gamins l'été dernier qui ont été mutilés au niveau des parties génitales après avoir reçu ce type de balles sur eux. Donc ça, c'est les flashballs. Et il y a les tasers donc, qui envoient une décharge électrique et dont on ne connaît pas du tout les effets. Aux États-Unis, il y a énormément, on parle de plus de 500 personnes qui sont décédées après l'utilisation de tasers. En France, la CAT a recensé à ce jour 5 personnes qui sont décédées après l'utilisation d'un taser. Mais pour l'instant, on n'a jamais réussi à démontrer que c'était lié à cette arme. C'est des armes qui sont présentées comme non létales, mais en réalité, et le flashball et le taser sont des armes qui peuvent causer la mort. Et pour les flashballs, des armes qui provoquent des blessures de manière vraiment, vraiment disproportionnée. On s'est interrogé, disons, pendant l'enquête, sur une évolution de la manière d'agir en maintien de l'ordre par les policiers et les gendarmes. La doctrine historique du maintien de l'ordre à la française, il y a quelques années encore, était de maintenir les manifestants à distance, les repousser en utilisant des armes comme les lacrymogènes. Maintenant, dans les manifestations, les policiers, avec le flashball... Le flashball qui est muni d'un viseur et d'un rayon laser pointe le faisceau laser sur les visages des gens, tire sur elles et les blesse.
Dissuader sans blesser, voilà pourquoi a été conçu le flashball lors de sa mise en service en 1995.
Ce chauffeur de VTC s'en tire avec une cicatrice de 23 cm et 3 semaines d'arrêt de travail, suite au tir de flashball qu'il a reçu en pleine tête.
Il ne peut pas y avoir de confiance envers la police si la police ne se rend pas digne de ça. Les citoyens ne peuvent avoir confiance que si elle est respectueuse des lois de la République, que si, quand il y a des dérapages ou des blessures, les policiers sont condamnés, qu'il y a des sanctions fermes, parce que c'est grave pour un policier, c'est extrêmement grave.
Parce que donc ça, c'est le deuxième grand volet du rapport, c'est l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences policières.
On s'aperçoit sur les 89 cas que l'on a examinés qu'il y a très très peu de condamnations judiciaires. On a 6 condamnations judiciaires. On parle de 26 décès, 29 infirmités permanentes et le reste, c'est des blessures graves qui n'ont pas entraîné d'infirmité permanente. Donc c'est vraiment les cas les plus graves. Sur ces cas les plus graves, on a 6 condamnations qui sont, à part une condamnation assez forte d'un policier qui a été condamné à de la prison ferme, sinon c'est que des condamnations qui paraissent faibles. On a par exemple une condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour 3 policiers reconnus coupables d'homicide involontaire qui ont tué un monsieur autiste en l'interpellant. Il est mort étouffé pendant l'interpellation. Face à ça, on a un jeune homme qui manifestait à Nantes qui lui a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir fabriqué et jeté un fumigène en manifestation. Il n'y a pas eu de blessé, il a fabriqué et jeté un fumigène, bon, c'est un fait illégal, condamnation pourquoi pas, mais 1 an de prison ferme. Les gens ne peuvent pas comprendre la disproportion des peines entre d'un côté les policiers et d'un autre côté les citoyens. Et ça contribue très clairement à la défiance et au manque de confiance envers la police et envers la justice. Et surtout, le risque, il est pour la démocratie aussi, d'avoir des gens qui sont dépositaires de la force publique, des représentants de l'État, qui blessent, qui mutilent ou qui tuent leurs citoyens, et que ces gens-là ne soient pas... qu'il n'y ait pas de vraie enquête, qu'il n'y ait pas de vraie sanction, c'est pour la démocratie, et c'est extrêmement grave. Cette impunité est extrêmement inquiétante.
40 mutilés entre 2005 et 2015 et 40 mutilés aussi juste depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On voit bien la montée en puissance de la violence policière. Et si Aline Dayer alertait déjà en mars 2016 sur les conséquences de l'impunité, des policiers, force est de constater que la tendance semble depuis s'être accentuée.
Mais reprenons notre passage en revue, reportage à l'appui, de l'évolution des techniques et des doctrines du maintien de l'ordre ces dernières années. Souvenez-vous, en mai 2016, après de longues semaines de mobilisation contre la loi travail, alors que les occupations nuit debout se poursuivaient, des syndicats policiers lançaient une manifestation « Stop à la haine anti-flic » sur la même place de la République. Alors forcément, il y eut des contre-manifestants.
État d'urgence ! État policier !
Eux l'affirment, tout le monde déteste la police. Ils étaient environ 300 ce mercredi à se rassembler contre la manifestation des policiers.
Force de l'ordre d'un côté et casseurs de l'autre, la manifestation contre la violence anti-policier n'a pas été épargnée par les perturbateurs.
Bonjour, pensez que vous étiez venu pour la manif de soutien à la police ?
Non, nous ne sommes pas venus pour soutenir la police. Nous sommes venus à l'appel du collectif Urgence contre police assassine. Et c'est un collectif qui dénonce depuis de nombreuses années les violences policières qui restent à chaque fois impunies. Donc sentiment d'injustice face à une police qui dénonce une haine anti-flic, alors que du côté des manifestants, même pacifiques, j'insiste, surtout dans les manifestations en ce moment qui se font gazer, matraquer pour rien, ça a été mon cas. Dans les manifestations en ce moment, ils n'isolent pas les gens considérés comme violents, mais au contraire, ils répondent au hasard pour dissuader les gens de descendre dans la rue, quels qu'ils soient. Donc on a un petit peu le sentiment que l'État cherche à faire passer en fait, les manifestations pour simplement un agrégat de gens violents et absolument pas politisés, qui sont pas là pour des revendications, mais qui sont là juste pour casser, c'est pas le cas.
Bien sûr, ça pousse un peu par là.
Au-delà du métro, messieurs dames, s'il vous plaît.
Bah voilà, ça commence, ça bouscule, la gendarme qui bouscule.
Ça commence comme ça, comme d'habitude, toujours. Bah, nous, la violence policière dans les quartiers, c'est pas d'aujourd'hui qu'on l'a vécu. C'est depuis plus de 30 ans qu'on a vécu les violences policières. Maintenant, ceux qui ont des manifestants qui prennent des coups de matraque, des coups de gazeuse, ils se rendent compte c'est quoi les violences policières que nous, on parle dans les quartiers.
Oh là là.
Regarde-moi ça. Ça y est, ça commence à gazer.
C'est quelque chose de terroriste, là.
C'est des petits coups de spray et les militants mettent tout de suite leurs lunettes de ski, leurs petits masques. Ah mais je vois que même les policiers sont aussi en train de pleurer et ont aussi des yeux tout piquants.
Ils ne sont pas là pour encadrer cette fois mais pour manifester. Et c'est inédit, quelques 7000 policiers ont investi la place de la République pour dire non à la haine anti-flic.
Là il y a un monsieur là, qui vient de se prendre du giclée de gaz. Pardon. Voilà, pendant qu'il n'y a plus que quelques manifestants qui ont été maintenant refoulés jusqu'au début de Magenta, là je passe les contrôles et j'arrive dans la partie place de la République exclusivement réservée aux syndicalistes policiers venus manifester. Mais alors, c'est une manifestation un peu particulière puisque c'est une manifestation derrière des grilles, derrière des barrières autour de la place.
Ça va la police ? Je voudrais nous faire entendre, je voudrais un maximum de bruit, place de la République ! Qu'est-ce qu'il y a encore un peu de monde avec nous ? Faites du bruit ! Stop à la haine anti-flic, y'en a marre !
Non, mon grade, ça suffira, hein.
Ah bah non, grade,
je suis gardien de la paix.
Vous avez un petit drapeau Alliance, c'est ça ?
Tout à fait. Sur la place, il n'y a que des policiers pour manifester contre la haine anti-flic, hein, concrètement. Là, on parle essentiellement des problèmes de manifestation et autres. Nous, tous les jours, sur la VP, on n'a absolument aucun problème avec les
citoyens. La VP, c'est la voie publique.
Tout à fait, la voie publique. On n'a absolument aucun problème avec les citoyens, au cœur de nos interventions ou autres. Et étrangement, les médias ne font que ressortir les soucis qui peuvent se présenter lors des manifestations, quoi.
La plupart d'entre nous ne donnent pas leur métier. On dit toujours qu'on est fonctionnaire avant d'être fonctionnaire de police. Donc oui, il y a toujours une légère appréhension, on le sait. Mais bon, là, ça devient de plus en plus difficile pour nos collègues entre Calais, Paris, les différentes manifestations.
C'est-à-dire les migrants, les lois travail, l'état d'urgence. Non.
On aura toujours du travail, malheureusement. Nous sommes à la fois aimés, détestés. Aimés parce que l'on a besoin de nous et on est toujours là quand on a besoin de nous. Et détestés parce que aussi, forcément, il y a toujours le côté répression aussi qui rentrera en compte. Donc évidemment, ça ne fait jamais plaisir. Donc à la fois, on nous aime et on nous déteste. Mais en ce moment, on nous déteste surtout. Nous sommes républicains, on aime nos concitoyens, on ne serait pas là si on n'aimait pas. Donc, nous on est là, on vous aime hein, de toute façon.
Répétons, vive la police! CRS, police urbaine, parisienne, Dissilec.
C'est un métier qu'il faut respecter.
Bonjour madame.
Bon courage à vous.
Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le petit panier?
J'aime mon pays, j'aime ma police.
Et vous passez à vélo comme ça pour leur donner?
Ouais, parce que je suis fille de policier et j'en suis fière.
Homme.
Au revoir monsieur.
Oh, bruit qui court
sur France Inter.
Stop à la haine antiflique. Stop à la violence contre les policiers. Depuis maintenant 2 mois, les forces de l'ordre qui sécurisent les manifestations de protestation contre la réforme du code de travail sont la cible de groupuscules violents, dont le seul objectif est de propager la dévastation et casser du flic. Stop à la violence contre les policiers. Vive la police nationale, vive la République et vive la France.
Là, on attend le camion Sono, on attend peut-être qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne, et puis on partira en manifestation.
État d'urgence, répression, c'est non. Avec un point d'exclamation, c'est non. Il y a une manif qui se prépare aujourd'hui, 18 mai, ici sur la même place de la République. Il y a une manif sauvage contre l'état d'urgence.
État d'urgence, état policier, en nous empêchera pas de manifester.
Alors, Laurence Blisson, vous êtes au syndicat de la magistrature. Comment on peut expliquer cette escalade de la tension entre, effectivement, manifestants, forces de l'ordre, en ce moment?
Ça rend possible des interdictions de réunion, des interdictions de manifestation. On est, de manière plus générale, dans des techniques de maintien de l'ordre et dans des mutations du maintien de l'ordre qui dépassent l'état d'urgence, qui montrent un durcissement gouvernemental qui se traduit là, qui se traduit dans l'état d'urgence, dans les textes qui sont adoptés et dans la façon dont le gouvernement veut les imposer en recourant au 49-3. Bref, c'est un durcissement général. En tout cas, on voit que le gouvernement ne se prive pas d'utiliser les outils de l'état d'urgence contre les mobilisations. En l'occurrence, ces interdictions de se rendre sur les lieux de manifestation sont dans l'état d'urgence. Elles n'existent pas dans le droit classique. Et donc, c'est parce que l'état d'urgence est en vigueur que le gouvernement peut se permettre de les utiliser. Ce qui est inquiétant, c'est que ça ouvre la voie à des réformes. Au moment de la mort de Rémi Fraisse, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a rendu un rapport sur la question du maintien de l'ordre. Et parmi les préconisations de ce rapport, il y avait cette interdiction individuelle administrative de manifester, qui n'existe pour l'instant pas dans notre droit, à l'exception de l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, mais qui risque de réapparaître dans les mois, voire les années à venir. Et ça, on peut le craindre, parce qu'on voit très clairement qu'on est dans une logique de maintien de l'ordre, d'ordre public, qui va à l'encontre de nos droits fondamentaux, et notamment du droit de manifester, parce que la manifestation, c'est aujourd'hui notre moyen d'expression contre la loi travail.
Laurence Blisson avait vu juste quand elle nous disait en mai 2016 que les dispositions de l'état d'urgence post-attentat risquaient fort de passer dans la loi. C'est chose faite et en procédure accélérée depuis la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme votée en octobre 2017.
Alors que beaucoup dénoncent la militarisation des forces de l'ordre en manifestation, nous avons voulu aussi retrouver les sympathiques flics de Reykjavik en Islande. En 2009 et en avril 2016, ils avaient dû à 2 reprises faire face eux aussi à des soulèvements de près de 10% de la population de ce petit pays de 320 000 âmes, venus faire démissionner leur premier ministre impliqué dans les Panama Papers en assiégeant le Parlement. Eh bien, voyez-vous, ça s'est passé sans débordement, sans LBD 40 et sans blessés graves.
Ça, c'est la sonnerie des policiers. Alors nous voilà dans les bureaux de la préfecture de police de Reykjavik, dans les sous-sols. On entend la climatisation et ça ressemble un peu à un commissariat français. Il y a les photos des policiers, il y a les écussons, il y a les badges, il y a les panneaux. Les photos de personnes qui sont poursuivies, wanted, saknad. Et du matériel de maintien de l'ordre. Voilà pourquoi on est venu jusqu'ici, ce pays qui a connu des manifestations de plus de 10% de sa population. 30 000 manifestants ici, c'est 10%, sans trop de violence.
4 avril 2016.
après les révélations des Panama Papers. Ce lundi, à Reykjavik, plusieurs milliers de manifestants ont réclamé la démission du chef du gouvernement. Cette manifestation, la plus grande de l'histoire du pays, faisait suite à des révélations concernant les millions que son épouse aurait cachés dans des paradis fiscaux.
Sa démission intervient dans la foulée des manifestations de protestation des milliers d'Islandais devant le Parlement.
Et si la population est autant remontée, c'est parce que ce pays était récemment en faillite et qu'il a fallu serrer la ceinture.
I'm Arnar Martinsson. I'm chief inspector and the head of the crowd management team.
Arnar Tolfason, sergent en charge de maintien de l'ordre et du contrôle de manifestations pour la police de Reykjavik. Donc vous avez eu beaucoup à faire ces derniers temps.
Yes, in especially in April.
Surtout en avril dernier, yeah. Au moment de Panama Papers.
Yeah, big protest. They were protesting our prime minister.
Il y avait des grandes manifestations pour demander la démission de notre premier ministre.
Protest.
Ah voilà, et on monte les photos de la grande place.
Maybe 20-25,000
people. Il y a eu 20-25,000 personnes qui sont passées sur cette place, qui elle-même ne peut pas contenir plus de 12,000 personnes, la place devant le Parlement, mais ça a défilé plus de 20-25,000 personnes qui sont venues manifester. Est-ce qu'il y a beaucoup de traditions de manifestations ici en Islande?
We have no tradition for big protest 1949 in Reykjavik. We use riot gas and have big protest.
La dernière fois qu'on avait utilisé des gaz lacrymogènes contre des manifestations, c'était en 1949.
But next time we have to use riot gas in the front of the parliament, it was 2009 when the bank system crashed.
Ce n'est qu'avec l'effondrement des banques qu'il y a commencé à avoir des manifestations.
60 years.
C'est-à-dire pendant 60 ans, on n'avait pas eu une seule fois utilisé des gaz lacrymogènes pour le maintien de l'ordre.
Yes, about that. You're right about that.
Vous savez que ça nous fait rêver, nous, en France.
Sigmundur Gunnlaugsson et son épouse sont soupçonnés d'avoir caché plusieurs millions de dollars via une société écran située dans les îles Vierges britanniques.
Vous imaginez bien que quand ces Islandais ont appris que le Premier ministre était soupçonné d'évasion fiscale, leur sang-froid est monté à ébullition.
It started. It was a few people protesting, and it was peaceful. And then it getting more violent.
Au début, ça a commencé de manière très pacifique, quelques personnes qui manifestaient, et puis c'est devenu de plus en plus violent.
Dairy products and
ils nous jetaient aussi des yaourts aussi.
They have stone and
et des pierres.
Vegetable and
des légumes aussi,
and
des fruits. Ils nous balançaient tout ce qui leur venait sous la main.
Police officers in Iceland are very few. It was very difficult for us to do something about it because we were so few.
Et on est très peu nombreux nous, la police ici en Islande, donc c'était très difficile de faire face. Oui, vous étiez combien?
We were maybe about 200-250.
Ouais, pas plus de 200-250 policiers devant le Parlement et des milliers de manifestants en face de vous.
Yes.
Là, on voit les photos avec la manifestation. Et vous, vous aviez quoi pour faire face à cette violence?
We have our riot gear and,
on a un équipement
and
anti-émeute.
And we have little training in crowd management.
On avait un tout petit peu d'entraînement en gestion de foule.
But we thought we would never use such a tactic in Iceland, but we use it first time.
Mais on n'avait jamais imaginé avoir utilisé ce matériel tactique en Islande. Voilà qu'on y a été confronté. Et est-ce que vous êtes armés, vous, les policiers, ici en Islande? Vous n'avez pas des flashballs? Vous n'avez pas... Parce que nous, en France, maintenant, la police a, des, pour les manifestations, des flashballs à plusieurs coups.
We don't use that. Maybe,
et pas de taser.
Maybe we have anti-terrorist team that,
peut-être que c'est des équipes antiterroristes, mais ils n'utilisent pas pour les manifestations.
Just riot gas. Bottom and pepper spray.
Juste les matraques et le gaz lacrymogène, c'est tout ce qu'on utilise.
And when we start, we told the people we use pepper spray if they don't move, the people laugh.
Quand on les a sortis au moment des manifestations, on les a brandis à la face des manifestants, on leur a dit « Reculez, sinon nous allons utiliser ces gaz lacrymogènes », les gens ont commencé à rire.
Yes, but now they don't laugh. And
mais maintenant, ils rigolent plus. Voilà, les manifestations, on voit les policiers casqués devant le poste de police. Une belle photo noir et blanc avec de la musique du rock islandais. Là, on voit les policiers couverts de peinture et de yaourt avec leurs casques et leurs visières. Et c'est vrai qu'ils ne sont armés que de matraques et de boucliers.
And you can see the protesters are very close to the police.
Et on voit là les policiers qui avancent au milieu des manifestants mais sans cogner. Des manifestants qu'on voit avec leurs tambours, leurs casseroles pendant les grands soulèvements contre la crise financière ici en Islande.
actually, a camera. From media, I don't like it.
Les journalistes qui se font asperger, arroser, tout le monde. C'est des images qui nous paraissent courantes en France, mais ici, c'est vraiment une partie de l'histoire qui s'écrit.
Time was very strange, we were not used to that.
On n'était pas habitués. Et il y a eu des policiers blessés?
A little wounded. One was hit with big stones.
Il y en a un qui a été blessé parce qu'il a reçu une pierre dans la tête.
Maybe a riot helm, but he was knocked out.
Il a été assommé, mais heureusement il portait le casque sur la tête.
But he is all right today.
Mais maintenant il va très bien.
Yes, we have no serious
injuries. Mais pas de blessure sérieuse.
And this other thing, it's very interesting. The protesters say this police violence or something like that, but we have video cameras and cell phones with cameras and people who was accusing us for using too much force. We can see it in YouTube. It was not right.
Il y a eu bien sûr des personnes qui nous ont accusé d'avoir usé de la violence, mais comme tout était filmé avec les caméras surveillance et les smartphones des gens, on a pu prouver qu'on n'a pas fait usage de la violence.
We like to have the media very close to us.
C'est pour ça qu'on aime que les journalistes et la télé soient avec nous, parce que nous n'avons rien à cacher.
The police was very popular in Iceland and not so much force. People know that we don't beat.
C'est pour ça qu'après ces grandes manifestations de 2009, la police de Reykjavik est devenue très populaire auprès de la population parce qu'on était, disons, modéré, c'est-à-dire qu'on ne cognait pas trop.
People trust the police more than every other institution in Iceland.
On a plus confiance à la police que dans n'importe quelle autre institution, plus que les banques.
Yes, a lot more than banks.
When it comes to trust, the banks they're at the bottom. Financial institutions at the bottom.
Comme pour les derniers sondages montrent qu'en termes de confiance dans la population, les banques et les institutions financières sont le dernier. Ça, c'est ce que nous disent les policiers.
They were throwing stones to the police officers and people began to go front of the police. They were prevent them from stones.
Quand certaines personnes commençaient à jeter des pierres au cordon de police qui entourait le Parlement, il y a des manifestants qui sont venus s'interposer pour protéger la police. Ça, c'est difficilement imaginable en France en ce moment, je vous avoue.
Yes.
I'm just going to introduce, this is Hadler.
Hadler, qui est là, qui est policier. Hi.
Je travaille comme un inspecteur.
Alors moi justement, je venais. Vous pouvez nous aider à faire la comparaison entre la police en France et la police en Islande?
Oui.
C'est une police très pacifique que vous avez.
Oui, on a le bâton, on a le pepper spray.
Ouais, le gaz poivre.
Oui, mais on l'utilise pas beaucoup. On peut même dire que on l'utilise pas assez. C'est-à-dire, on essaye souvent un peu trop de parler et sans utiliser les armes.
Mais alors, quel conseil vous donneriez aux policiers français? Parce que eux, ils réclament de plus en plus d'armes.
Oui.
Ils veulent être plus nombreux. Mmh. Ils veulent avoir des procédures d'intervention plus au contact et au clash.
Oui. Bah, je sais pas. Quand on a commencé, on a dit la même chose. On voulait le prendre plus fort. Mais en général, ça. On ne voulait pas y croire, mais c'était mieux de ne pas prendre la manière forte. Ouais. Dans les manifestations, je me souviens de plusieurs heures où j'ai parlé avec les manifestants. Ils ont dit, allez, viens vers nous, aide-nous, arrête de faire
ça. La police, avec nous.
Voilà, ouais. Et j'ai dit, ben, si je fais ça, je perds mon boulot, je perds mon appartement, ma femme ne peut pas manger. Tu veux que je perds tout? Non. Ben alors, il faut que je reste là. Beaucoup de gens l'ont compris. Et ils ont vu que j'étais humain. Je n'étais pas une machine à la volonté des autres. Tue et je tue. C'est pas comme ça.
C'est pas un Robocop.
Non, voilà, je suis pas Robocop. C'est Robocop. Ah, Robocop.
Et alors, ça va être quand la prochaine manifestation, vous pensez?
Je sais pas.
Vous êtes prêts?
Oui, toujours.
Les forces de l'ordre très présentes n'ont pas eu à intervenir. Et quand on demande aux policiers s'ils auraient manifesté s'ils n'avaient pas été de service...
Probablement, ma situation financière n'est pas terrible en ce moment.
Les uniformes anti-émeutes. Voilà les casques qu'utilise la police. Ça, c'est les menottes. Voilà, c'est quelques-unes des briques qu'on s'est pris dans la tête. Tu vois, ce casque-ci a pris un coup, mais on voit qu'il n'y a pas de traces. Alors justement, sergent, moi j'ai besoin que vous me donniez un conseil pour la police française. Parce qu'en France, on a des manifestations sur des questions sociales au cours des derniers mois qui ont été sévèrement réprimées. Est-ce que vous avez un conseil à donner à la police française? Je sais que ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même échelle, mais c'est le même boulot.
With my experience, I know in France you have plenty of experience.
Je sais qu'en France vous avez beaucoup d'expérience pour la gestion des manifestations.
Beginners.
Nous, on est des petits joueurs, on est des débutants.
Beginners, but the Icelandic style is use as little violence as possible.
Mais la touche islandaise, c'est d'utiliser aussi peu de violence que possible.
And now we have this riot barricade.
Et maintenant, on a cette barricade mouvante autour du Parlement qui permet de mettre une distance.
Between the police
entre la police
and the protesters
et les manifestants.
That's very good.
Et ça, c'est une très bonne solution.
But now people like to have the barricade because it makes very much noise when they hit the barricade.
Mais maintenant, c'est que les manifestants ont pris goût à ces barrières qu'on élève pour séparer, parce qu'ils tapent dessus maintenant et c'est comme ça qu'ils font du bruit.
We call it a big drum.
C'est un grand tambour, c'est le tambour géant. Parce que ça sonne bien.
Le chercheur Sébastien Rocher nous le disait la semaine dernière, il y a un retard français en termes de maintien de l'ordre qui pèse sur les relations entre police et population, alors que d'autres doctrines plus pacifiques et plus efficaces existent ailleurs en Europe.
C'était Comme un bruit qui court. Abonnez-vous au podcast, faites courir le hashtag Comme un bruit et on se retrouve samedi prochain à 16h.